Et quelles sont nos attendus, si vous voulez, par rapport à ces postes de formateurs sur lesquels vous candidatez? Pour ceux qui sont déjà dans le réseau, je vais rappeler juste quelques chiffres qui sont surtout importants pour les gens qui arrivent. Mais tout ce que je dis là, vous devez déjà, vous êtes déjà allé sur le site de l'agence et vous avez dû déjà regarder un petit peu tout cela. Notre agence aujourd'hui, elle est dans 112 pays. Il y a à peu près 580 établissements. Je ne me souviens plus si c'est 581 ou 82, enfin 580 établissements homologués. Et donc on scolarise à peu près 400 000 élèves. C'est pour vous donner une idée de la volumétrie de cette maison. Nos établissements sont des établissements qui sont un peu spécifiques par rapport à la France parce qu'on scolarise souvent de la maternelle à la terminale. Et nous avons, pour travailler sur ces établissements, des personnels que l'on recrute avec des statuts très différents. On a des personnels titulaires d'éducation nationale qui peuvent être recrutés sur des statuts suite à notre nouveau décret de détaché, c'est-à-dire des personnels enseignants détachés. On avait par le passé ce qu'on appelle les résidents, il y en a encore, hein, qui ont choisi de rester résidents. Et puis à côté de ça, on a des recrutés locaux, personnels qui travaillent dans nos établissements, qui ne sont pas titulaires de l'éducation nationale, qui peuvent avoir développé des compétences parce qu'ils ont de l'expérience depuis longtemps, parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils sont là, mais qui ont besoin d'être accompagné dans ses missions d'enseignement. Et donc, les postes de formateurs que vous souhaitez occuper sont des postes importants pour nous à deux titres. Le premier titre, c'est d'abord dans l'établissement où vous allez être affecté. Enfin, je parle pour les EMFE, pour le CPAIEN, c'est directement en relation avec l'IEN de zone et c'est lui qui va être en charge de voir avec vous votre engagement, les missions qui sont les vôtres et la manière dont vous allez travailler auprès des établissements. Pour le MFE, la situation est un peu différente. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous êtes affecté dans un établissement avec une mission établissement importante parce que vous êtes quand même des enseignants au départ. Vous n'êtes pas que des formateurs, vous êtes des enseignants. Donc, il y a une partie d'enseignement dans cet établissement qui est importante, que vous compléterez par une partie formation dans cet établissement. Et ensuite, vous aurez à travailler avec l'Institut régional de formation qu'on a créé au 1er janvier 2023. Et à travers cet institut, vous pourrez être amené à participer à des formations qui peuvent être des formations dans le cadre de la formation continue, puisque un de nos objectifs, c'est de continuer à former nos personnels, à la fois les titulaires, à la fois les recrutés locaux, comme je le disais. Mais il y a aussi une partie importante dans ces instituts de formation de personnels qui peuvent être amenés ensuite à être recrutés dans nos établissements. Alors, on parlera pas de formation initiale parce que c'est pas nous, notre responsabilité, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais nous, on va faire de la formation qui va permettre à faire acquérir à ces personnels que l'on aura repéré des compétences d'enseignement. Donc, on va les former à de la didactique et ça sera votre rôle dans l'accompagnement des personnels qui seront dans ces instituts et des plans de formation que vous allez faire. Donc, vraiment, c'est une mission très importante, très forte que vous avez à faire dans ces établissements liés sur la partie formation. Parce que vous allez voir que dans beaucoup de nos établissements du réseau, le nombre de titulaires de l'éducation nationale dans le premier degré n'est pas toujours aussi important que cela. Et des fois, on se retrouve dans certains établissements avec un seul titulaire par niveau, voire deux, mais pas plus dans certaines zones du monde. Donc, on a beaucoup de recrutés locaux. Et le rôle du maître formateur, c'est d'accompagner sous l'autorité du directeur d'école, et ça, je crois que c'est très important aussi de le préciser rapidement. L'autorité, c'est le directeur d'école et le chef d'établissement dans lequel vous êtes nommé. Et après, vous aurez un autre rapport, c'est avec l'IEN de zone qui, lui, mais ça ne sera pas, si vous voulez, l'IEN n'a pas le même pouvoir hiérarchique que ce qu'on a en France. L'IEN, là, il est plus axé sur l'accompagnement, la formation, mais le responsable hiérarchique, c'est votre chef d'établissement et votre directeur d'école sur place. Donc ça, c'est quand même des notions quand même qui changent avec la France et il est important que vous ayez ces éléments-là en tête pour la mission qui sera la vôtre dans nos établissements. Je vais faire deux petits focus importants pour moi par rapport à votre mission. Comme je l'ai dit, elle est double, l'enseignement et la formation. On attend de vous de l'exemplarité dans la mission que nous vous demandons d'assumer, parce que quand vous êtes formateur de personnel de droit local, vous représentez l'éducation nationale, vous représentez la France dans un pays étranger, et donc vous êtes dans une posture où vous donnez une image du système éducatif français. Et donc, il est important que par rapport à tout cela, vous soyez attentif à l'éthique, à la responsabilité, à l'exemplarité lorsque vous faites passer des messages auprès de personnels de droit local qui n'ont pas eu la chance d'avoir les formations que vous avez et les diplômes qui sont les vôtres. Donc ça, c'est un élément qui, je crois, est au cœur de la mission que vous allez effectuer. Le deuxième élément que je veux porter à votre connaissance, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire que à l'étranger, vous allez voir, hein, pour ceux qui sont jamais partis, le travail. Il y en a beaucoup en France, mais à l'étranger, il peut y en avoir davantage. Je veux dire comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes formateur, vous avez bien compris que vous avez travaillé sur deux éléments, l'établissement et la zone. Vous avez aussi quelque chose qui est très différent, c'est les parents d'élèves qui sont très présents, qui vont vous solliciter en tant qu'enseignant. Et puis vous aurez les collègues qui vont vous solliciter en tant que formateur. Donc, voilà, ça va être une mission, je pense, riche et vraiment pleine d'une importance professionnelle, je crois, qui va vous permettre d'aborder, dans ce cadre de la formation, un public d'abord différent, un public collègue enseignant différent et un public d'enfants aussi différent, parce que, comme nous le menions, vous allez être confronté aussi à des problèmes de langue, parce que dans certains pays où vous allez exercer, vous allez accueillir des enfants non francophones. Et donc, vous aurez à gérer une partie, si vous voulez, sans parler de la maîtrise de la langue française. Vous allez les éduquer et leur apprendre la langue française sans pour autant être des professeurs de FLE. C'est-à-dire, vous restez des enseignants avec les programmes français, puisque tous les établissements dans lesquels vous allez exercer sont des établissements homologués, et donc par l'éducation nationale. Et donc, c'est des programmes français qui sont en vigueur. Même pour des enfants qui ne sont pas francophones. Et il va falloir que vous adaptiez avec vos collègues toute la partie d'enseignement pour capter ces enfants qui arrivent peut-être de niveaux différents et d'écoles différentes avec une culture différente pour les petit à petit leur faire intégrer le système français. Donc ça, c'est quand même, ce sont des missions qui sont vraiment importantes par rapport à cela. Un dernier mot sur votre, si c'est votre première mission à l'étranger. D'abord, vous allez dépendre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc vous allez quitter le ministère de l'Éducation nationale, pas totalement, hein, puisque je vous l'ai dit, les programmes, l'homologation, c'est ce qui fait notre cœur de métier, mais vous allez être quand même un représentant de la France à l'étranger, et donc même si vous êtes enseignant formateur, vous représentez la France à un moment donné, donc faites attention à votre posture, faites attention, si je peux me permettre, aux réseaux sociaux. Hein, faites attention aux réseaux sociaux, vous êtes épiés, vous êtes regardés, et la manière dont vous allez communiquer, on a malheureusement beaucoup d'exemples aujourd'hui dans le réseau qui font qu'on a des collègues qui sont en difficulté, non pas parce que c'est au niveau professionnel, c'est parce qu'ils se sont laissés dépasser par parfois les réseaux sociaux, par des commentaires, et c'est repris, c'est déformé, mais ça met à la fois, ça peut mettre le collègue en difficulté, ça met l'établissement en difficulté, ça met le poste diplomatique en difficulté, et ça peut nous mettre à nous en difficulté. Donc vous voyez que la chaîne est importante, donc je pense qu'il faut que vous soyez très attentif à l'utilisation de la communication et des réseaux sociaux. C'est un vrai conseil important, mais je pense qu'en France aujourd'hui, on est sur le même schéma au regard de ce qui se passe aujourd'hui et des différentes affaires en cours. On sait très bien que cette communication, elle est importante. Voilà, donc moi, je voulais vous donner ce contexte général, ces éléments, si vous voulez, qui sont des éléments de cadrage par rapport à la mission et au fait que vous intégriez le ministère à travers l'AEFE, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous vous engagez sur des postes qui sont très importants. On a développé, hein, le nombre de MFE dans le monde. C'est des postes importants. Il y a des vraies attentes dans les établissements. Il y a des vraies attentes au niveau des zones. Donc, je pense que c'est un beau parcours qui vous attend. Et j'espère que vous allez pouvoir enrichir votre parcours professionnel, développer de nouvelles compétences et apporter beaucoup à la fois aux élèves et aux collègues qui sont dans le réseau. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir pu ouvrir ce petit webinaire. Je vous souhaite donc que nous vous recrutions, parce que l'étape qui va suivre, on va vous expliquer comment se passe la candidature et le recrutement. Et si nous vous recrutons, eh bien, on se reverra bientôt. Merci à toutes et tous. Je vous prie d'accepter mes excuses parce que je dois vraiment rejoindre notre réunion avec la secrétaire générale. Je vous laisse en très, très bonne compagnie et vous aurez toutes les réponses qu'il faut aux questions qui sont les vôtres. Merci à vous.
Merci.
Allez-y.
Je vais passer la parole à Sylvie Roche qui va vous expliquer en fait toute la procédure pour pouvoir déposer votre candidature.
Je vais effectivement essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, vous avez vu, bon, pour une partie d'entre vous, c'est peut-être déjà fait, mais vous avez vu que notre site de saisie est ouvert depuis le 6 septembre. Il refermera jeudi 28 à minuit précisément, ce qui sous-entend que le 29 à minuit une, si vous n'avez pas procédé à la validation finale du dossier. Il sera trop tard et nous ne récupérons aucun dossier en dehors de ces dates. Il est très important d'aller lire notre site à la rubrique personnelle, donc pour ce qui vous concerne, détaché sur mission de formation du premier degré, pour avoir toutes les informations qui pourront vous être utiles dans la saisie de votre dossier. Donc, cette saisie, ce site, en bas de chaque page, vous avez des explications qui sont très importantes et que je vous invite à lire attentivement de façon à pouvoir saisir votre dossier de façon la plus complète, la plus précise possible. Je pense notamment à la partie des vœux. Donc, 11 postes, je crois, de mémoire EMFE, 5 postes CPAUN. Si vous voulez postuler sur ces deux types, enfin candidater sur ces deux types de postes, vous ne faites qu'un seul dossier. Déjà, important. On vous demande également donc de faire 10 vœux maximum. Vous pouvez, enfin, ce qui est important, c'est pas que vous pouvez, c'est même bloquant. Vous avez également une extension géographique, des vœux géographiques à formuler en cas de poste supplémentaire. Ça peut être intéressant si un poste se découvre n'importe où en Amérique latine. Si vous avez coché cette case Amérique latine, on pourra étudier votre dossier. Mais si vous ne l'avez pas coché, on n'étudiera pas votre dossier pour ce poste supplémentaire. On vous demande également d'être le plus concis possible dans la constitution de votre dossier. C'est très important. C'est pour faciliter notre travail, excusez-nous, mais on reçoit beaucoup de dossiers, de respecter l'ordre également des documents qui vous est donné à l'étape 7 du site ou de ce qui est reprise bien sûr sur le dossier. Lorsque vous allez valider votre dossier, donc vous allez récupérer un document PDF que vous donc le dossier en PDF que vous nous renvoyez en un seul fichier PDF important. Important, c'est vrai que pour les personnes qui nous envoient pratiquement un fichier par page, c'est un petit peu compliqué à reconstituer aussi. Donc, en un seul fichier PDF, vous nous envoyez donc votre dossier via la plateforme France Transfert. Vous devez en parallèle envoyer votre dossier pour les personnels en France à votre IUN de circonscription et qui lui ou elle l'enverra à votre DAZEN, et le DAZEN nous renverra uniquement la page des avis. Si vous êtes en poste à l'étranger, vous avez un exemplaire à envoyer à votre DAZEN en France, un exemplaire à donner à votre chef d'établissement, qui l'enverra ensuite au COCAC, et c'est le COCAC qui nous envoie uniquement la page des avis. Nous allons accuser réception de vos dossiers lorsque ça sera complet, lorsque nous aurons récupéré dossier plus les avis. Je ne vous ai pas précisé, effectivement, pour nous envoyer votre dossier via France Transfert, merci de respecter la date du 5 octobre qui vous est donnée. Et pour ce qui est du transfert à votre hiérarchie, ça vous appartient, vous le faites de la façon dont vous voulez, mais le plus rapidement possible. Vous avez ces informations sur le site et vous les aurez également sur la dernière page du dossier qui n'est visible qu'après la validation finale. Donc, nous allons collecter de toute façon tous les avis tout au long du mois d'octobre. On va accuser réception tout au long du mois d'octobre. Si vous n'avez pas de nos nouvelles au début du mois de novembre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bon, en général, c'est que voilà, les DS2N n'ont pas. Voilà, ça reste un peu bloqué des fois dans les bureaux. Ils n'ont pas pris le temps de nous les renvoyer, mais. En général, le problème est là. Donc, quelques rappels de règles administratives, mais que vous connaissez, je pense, vous devez être titulaire de la fonction publique française depuis au moins 2 ans. Vous pouvez être en position d'activité, vous pouvez être en position de disponibilité. Vous pouvez être en détachement, mais sachant que celui-ci doit être terminé au plus tard le 31 août 2024, puisque vous ne pouvez pas être en cours de détachement. Vous pouvez postuler, mais votre dossier sera irrecevable. Hein. J'insiste bien sur ce point. Vous devez, à la date du 1er septembre 2024, ne plus être en détachement. Donc, ensuite, vous devez avoir une expérience. Alors, pour les CPAUN, vous devez, je pense, avoir une expérience d'au moins 3 ans dans ce même type de poste. Pour les enseignants, vous devez être titulaire du CAFIPEMF ou du CAFIMF. Idem pour postuler sur un poste de MFE. Et pour postuler sur un poste de MFE, il est bien d'avoir une expérience dans le conseil pédagogique. Donc ensuite, nous allons rentrer dans une phase d'étude de vos dossiers qui va prendre du temps. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus de nouvelles de notre part pendant un petit peu un certain temps. Nous allons constituer une liste de personnes qui viendront passer un entretien. Donc, bien sûr, c'est un travail commun entre nous, entre le service pédagogique. Et une liste qui va être validée en groupe de travail avec les représentants du personnel. À l'issue du groupe de travail, vous recevrez un mail de notre part. Important, nous ne communiquons que par mail avec vous. À partir de l'adresse mail que vous aurez indiquée dans le site, dans votre saisie. Donc, faites bien attention à bien saisir votre adresse, puisque les mails partent directement de notre application de gestion. Et comme on le dit à chaque fois, essayez, enfin, évitez les adresses académiques autant que possible, qui notre logiciel de gestion ne les aime pas trop. Donc, on rencontre des petits soucis parfois avec ces adresses. Donc, plutôt préférez une adresse personnelle. Autant que possible. Donc, nous vous écrirons pour vous dire que bah, soit non, vous n'êtes pas présélectionné en entretien, avec une petite phrase explicative qui, si elle ne vous suffit pas, on pourra vous donner plus d'explications. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler. Et puis, si vous êtes présélectionné, vous aurez donc toutes les modalités pour cet entretien. Je ne sais pas encore, là, depuis 3 ans, il se passe à distance, ça sera peut-être encore à distance. Bon, en tout cas, ça n'est pas encore fixé totalement, mais vous aurez toutes les modalités dans ce mail. Ensuite, donc, vous passerez un entretien. Je pense qu'il démarre à la fin du mois de janvier jusqu'au 16 février. Les dates sont également sur le site. Attention, c'est une période de vacances scolaires pour au moins une des 3 zones ou peut-être 2 zones. Donc, si vous voulez passer cet entretien, essayez de vous rendre disponible. Parce que si vous nous dites bah, « je suis partie faire du ski », libre à vous, mais nous n'avons pas non plus, nous ne pouvons pas changer les dates à votre gré, en fait. C'est très difficile pour nous, c'est très contraint hein, déjà comme calendrier. Donc ensuite, à l'issue, donc les entretiens qui durent 30 minutes, 10 minutes, 10 minutes, dont 10 minutes de présentation de votre part, 20 minutes d'échange avec les membres de la commission au nombre de 3, un ou une représentante du bureau du recrutement, un inspecteur donc de service pédagogique, et puis un ou une représentante d'une autre direction de l'agence qui s'appelle la direction du développement et de l'accompagnement du réseau. Et voilà, vous pouvez aller voir tout de suite notre organigramme si vous ne savez pas à quoi ça fait référence cette direction et même toutes les directions que je vous ai citées en tout état de cause. Donc, à l'issue des entretiens, vous aurez soit une proposition de poste, soit vous serez sur liste de réserve, soit le cas le moins sympathique, vous n'êtes pas retenu. Donc, là encore, vous... Alors, Cette sélection est validée en commission consultative paritaire, à l'issue de laquelle vous recevrez un mail pour vous indiquer effectivement là où vous vous situez. Si vous n'êtes pas retenu, encore une fois, vous aurez une petite phrase explicative. Alors, on est contraint en termes de nombre de caractères, donc c'est pour ça que je vous invite également à revenir vers nous si ce qu'on vous met sur le site ne vous satisfait pas ou n'est pas assez complet pour vous. Et puis, vous pouvez être placé sur liste de réserve. Donc là, c'est qu'on n'a peut-être pas dans l'immédiat trouvé l'adéquation entre un poste et votre profil, mais on se réserve le droit de vous rappeler, de revenir vers vous en cas de poste supplémentaire ou si une personne à qui on a proposé un poste refusait son poste. Et puis, ben, le cas le plus intéressant, je pense, pour vous, puisque vous candidatez, vous êtes là, c'est qu'on vous propose un poste. Et là, vous avez donc une proposition de poste avec un courrier dans lequel vous trouverez le nom de la gestionnaire ou du gestionnaire administratif et financier. Donc, je vous laisserai environ une semaine pour répondre à cette proposition de poste. Vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit d'avoir changé d'avis. Vous avez le droit, enfin, vous pouvez avoir aussi un empêchement, un incontournable. Vous ne pouvez plus partir. Enfin, en tout état de cause, on ne vous en voudra pas. On ne vous force pas à partir. On ne vous emmène pas de force à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de refuser. Bon, si vous acceptez, c'est mieux pour nous, parce que si on vous propose un poste, c'est que c'est qu'on est content et de votre dossier et de votre entretien et qu'on a trouvé l'adéquation, donc on vous veut. Mais donc vous acceptez le poste. Alors attention, le fait que l'AEFE vous propose un poste, ça ne veut pas dire que vous allez partir, hein, puisque c'est soumis quand même à deux conditions. Le détachement de votre administration d'origine, qui n'est pas de droit, j'insiste. Hein. Donc, vous pouvez avoir un refus de détachement et ça, nous n'avons aucune prise. Hein, sur, c'est votre administration qui a tous les droits sur ça. Et puis, l'agrément du poste diplomatique. Donc, tant que vous n'avez pas ces deux réponses-là, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr du tout de partir. Donc, voilà. Juste vous préciser que les 7 jours ou les 7-8 jours que je vais vous laisser pour me répondre, mettez-les à profit pour appeler les pays, les établissements dans lesquels, le poste qu'on vous aura proposé en tout cas. Appelez la collègue dont vous aurez le nom dans le courrier pour avoir le plus d'informations possible pour prendre votre décision en connaissance de cause, vraiment de la situation du pays, de tout. De personnes qui sont déjà en poste, surtout si c'est une première candidature. Donc, pour le bureau du recrutement, c'est le bureau du recrutement qui va suivre votre demande de détachement. C'est nous qui allons faire les demandes. Vous remplirez des documents qu'on vous enverra et nous ferons les demandes et de détachement et d'agrément du poste diplomatique. Et dès qu'on vous envoie les réponses à ça, donc dans l'hypothèse où c'est oui aux deux, votre dossier part au service administratif et financier qui vous prend en charge. Et puis, pour le recrutement, c'est fini pour nous. On refile nos dossiers, nos bébés. On vous a suivi pendant plusieurs mois et on vous quitte. Mais d'autres collègues vous prennent en charge. Je pense que j'ai à peu près pensé à tout. Je vais laisser la parole à Madame Chartier. Voilà, je vous remercie. Juste si vous précisez que je suis bien sûr disponible pour toutes les questions, on essaiera de répondre aux questions du chat, mais pour tout ce qui pourrait être un petit peu plus personnel ou on va répondre à des questions d'ordre général, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a mes coordonnées sur le site. Il doit y avoir l'adresse générique et il doit y avoir également mon numéro de téléphone. Voilà, j'ai terminé.
Merci Sylvie. Donc pour poursuivre, une fois que cette campagne de recrutement est terminée, en fait, la suite du dossier, en fait, c'est la constitution, en fait, d'une prise en charge administrative et financière. Donc, le relais est pris par le service de la gestion administrative et financière, donc à la DRH de l'AEFE. Je voulais vous apporter quelques précisions financières parce que ce sont souvent des sujets abordés par les candidats. Donc, le contrat qui est proposé, enfin le statut, c'est donc un détachement sur contrat pour une période de 3 ans, renouvelable pour 2 fois 1 an par renouvellement. Pendant la durée de ce contrat, vous allez garder le traitement qui est lié à votre grade et votre échelon, et il vient s'ajouter à cette rémunération indiciaire une indemnité qui est liée en fait à vos fonctions et à la localisation du poste en fait. Cette indemnité peut parfois être très, très intéressante. Vous pouvez avoir des montants qui vous paraissent très importants. Pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Sylvie Roche, prenez effectivement la tâche quand même des établissements quand on vous propose un poste, parce que cette indemnité tient compte de réalité locale, du coût de la vie locale. Donc effectivement, il faut toujours rapprocher le montant de cette indemnité au coût de la vie locale, que ce soit le logement ou tous les frais autres. Donc, cette indemnité, elle est versée mensuellement. Au niveau de l'imposition de cette indemnité, en fait, ça dépend des conventions fiscales qui sont passées entre la France et le pays dans lequel vous êtes affecté. Dans certains pays, il peut y avoir une imposition locale. C'est souvent une question qui nous est posée également. Et vous pouvez aussi avoir, si vous avez des enfants jusqu'à 21 ans, des majorations familiales qui sont versées et qui permettent de couvrir les frais de scolarité qui, vous l'avez peut-être vu dans notre réseau, peuvent être importants, mais ces majorations familiales permettent de couvrir ces frais de scolarité. Voilà, donc votre rémunération, elle se compose de votre rémunération indiciaire, de l'indemnité de géographique et de fonction spécifique et majoration familiale. Et puis, il y a aussi la prise en charge du voyage et du déménagement. Donc, le voyage est pris en charge pour vous et votre famille, donc conjoint marié ou pacsé et vos enfants. Et le versement aussi d'une indemnité de changement de résidence. Donc, toutes ces indemnités, en fait, ces prises en charge ne sont lancées qu'après la signature du contrat. Donc, vous pouvez avoir une estimation du montant de l'indemnité de changement de résidence, mais qu'au moment de la proposition de poste, si là, par exemple, vous nous contactez pour avoir le montant de l'indemnité de changement de résidence sur les 11 postes de MFE ou sur les postes de CPAIUL, on ne peut pas vous la communiquer parce qu'en fait, le mode de calcul est très complexe. Dépend d'où vous partez, dans quel pays vous êtes nommé, la composition de votre famille, vos fonctions. Donc, en fait, cette information liée à l'indemnité de changement de résidence n'est donnée qu'au moment où vous propose un poste pour que vous ayez justement toutes les données pour prendre votre décision. Cette prise en charge du voyage et le versement de l'indemnité de changement de résidence, elle se fait au moment de la nomination, mais également au moment de la fin de mission. Donc, on prendra en charge votre voyage de retour, on vous versera à nouveau une indemnité de changement de résidence. Et pendant la durée du contrat, en fonction du pays dans lequel vous êtes affecté, vous avez droit à des voyages de congé. La fréquence est fixée par un arrêté et suivant le pays, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. La plupart du temps, les collègues utilisent ces voyages de congé pour rentrer l'été, pour revenir voir la famille en France ou outre-mer. Donc voilà en fait le cadre général, je dirais, financier de nos contrats. Il y a un point important aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est la scolarisation des enfants. Vous avez peut-être noté qu'en bas de nos profils de poste, en fait, on a indiqué scolarisation ECL. En fait, ce sont les possibilités de scolarisation dans un établissement homologué dans la ville. Donc, sur certains postes que l'on propose, je ne sais pas si c'est le cas pour les postes de formateurs, mais parfois, il n'y a pas de scolarisation en direct dans l'établissement, en collège ou en lycée. Cette scolarisation n'est possible que par le CNED. Donc, ça fait partie d'un des éléments à prendre en compte dans le choix et dans la réflexion familiale que vous avez amenée au moment de l'acceptation du poste, parce qu'effectivement, la scolarisation par le CNED, elle est à envisager différemment d'une scolarisation en direct dans l'établissement. Donc voilà pour le tour, je pense, des éléments vraiment, je dirais plutôt matériels, en fait, liés aux propositions de poste que l'on peut vous faire. Il y a un point aussi qui est évoqué souvent par les candidats qui souhaitent partir, c'est en fait la réintégration à l'issue du contrat. Est-ce que je retrouve mon poste? Donc non, il n'est pas possible qu'on vous réserve votre poste, qu'on vous garde votre poste pendant 5 ans. Les DSDE ne peuvent pas. Donc vous reparticipez au mouvement dans votre département d'origine et c'est donc le DSDEN qui étudie votre demande. Ce qui est conseillé, en fait, c'est de reprendre contact au moment de votre réintégration, vraiment avec les services de la DSDEN, pour vous signaler, notamment par rapport aux fonctions particulières que vous avez pu exercer à l'étranger. Nous, à l'agence, on travaille vraiment en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le pôle mobilité, mais il est toujours bon de vous faire connaître en fait directement auprès des services départementaux pour expliquer un peu l'expérience que vous avez pu avoir à l'étranger et essayer d'expliciter vos choix de poste à la réintégration. je pense que j'ai terminé sur ce point plutôt administratif. Il y a aussi sur certains postes en formateur, je ne sais pas si on a le cas, mais des postes parfois où on exige une compétence linguistique particulière, soit en anglais, espagnol, voire allemand. On n'exige pas en fait de certification vraiment spécifique. C'est du déclaratif. Si vous avez un document venant d'un institut prouvant un niveau de langue, c'est parfait. Sinon, ça peut être une auto-évaluation, notamment sur Internet. Dans ces cas-là, soyez le plus objectif possible. N'essayez pas de vous surcoter, si vous voulez, parce qu'en fait, ce serait que vous mettre en difficulté au moment où vous prenez un poste dans un pays où cette compétence est vraiment primordiale dans la communication, notamment avec les parents d'élèves. Donc voilà, essayez d'être le plus objectif possible. Nous n'organisons pas de tests de langue sur les postes de formateurs. Donc, c'est vraiment du déclaratif et on compte sur votre objectivité, en fait, pour déclarer votre niveau de langue. Sur les vœux, je crois qu'on a déjà évoqué, effectivement, de faire des vœux les plus larges possibles. Par rapport aux questions du chat, tout à l'heure, on nous a demandé si on vous refusait un poste, est-ce que l'année suivante, on ne vous repropose pas le poste? Ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous acceptez un poste, essayez d'avoir le plus d'informations possibles avant de vous prononcer. Pour nous, ça simplifie largement les choses si vous devez accepter le poste, enfin le refuser plutôt, de le faire le plus tôt possible dans la procédure, parce que nous, tout notre recrutement, en fait, c'est un jeu de chaises musicales. Donc, si vous refusez un poste, on doit aller rechercher un autre candidat qui était sur liste de réserve. Donc, voilà, essayez de vous renseigner au maximum avant d'accepter un poste. Si vous devez le refuser, vous pouvez tout à fait recandidater l'année suivante. Ce ne sera pas rédhibitoire.
Peut-être une précision sur le CAFIPEMF dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai dit vous devez être titulaire, c'est un incontournable. Si vous n'êtes pas titulaire du CAFIPEMF, votre dossier ne sera pas retenu. Voilà, pour que ce soit sur un poste de CPA-IEN ou sur un poste de MFE.
La prise de contact est d'autant plus importante sur les postes de formateurs parce qu'en fait, en fonction du plan de formation de la zone, les priorités ne sont pas les mêmes suivant les zones de formation. Donc effectivement, vraiment de prendre contact avec le collègue qui est sur place, voire avec l'IEN de la zone, parce que nos IEN rayonnent sur des zones larges de formation. C'est toujours intéressant vraiment pour savoir sur quel point en fait le focus est mis au niveau de la zone. Donc voilà, vraiment la prise de contact, on se répète, mais c'est à la fois professionnellement, ça vous permet d'avoir vraiment une idée de l'envergure du poste, et puis familialement aussi, ça vous permet de vous projeter et de voir quels vont être un petit peu les points d'attention à avoir. Sur ce projet familial, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est la notion de poste double. Donc en fait, à l'agence, on ne propose pas de poste double. Au mieux, le conjoint pourra essayer d'obtenir un poste de détaché, mais il n'y a pas de recrutement sur poste double, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accepter un poste qu'à condition que votre conjoint ait également un poste. Si c'est possible, il sera recruté sur un statut d'enseignant détaché ou en contrat local, mais ça ne peut pas être un recrutement conditionnel. On n'est pas capable de gérer au niveau de l'agence. Dans certains pays, on a un seul établissement, donc si on n'a pas de poste, on ne peut vraiment pas s'engager pour l'emploi du conjoint. Voilà, il faut bien sûr être titulaire de la fonction publique française. Donc, si vous n'avez pas le concours de professeur des écoles, voire d'instituteur, on ne pourra pas vous recruter. Les enseignants du privé ne peuvent pas non plus être détachés auprès de l'AEFE. C'est un problème de statut administratif. On ne peut accueillir par le biais du détachement que des fonctionnaires titulaires de français. Donc, il faut absolument avoir le concours pour pouvoir être recruté chez nous. 2 ans d'ancienneté et obtenir voilà, le détachement de votre DSDEN. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez pu poser des questions via le chat? Je vérifie.
Je
Non, il y a une question sur les poses d'une seule zone. Vous êtes libre de solliciter que certains postes dans une zone géographique donnée. Par contre, si vous faites un vœu unique sans avoir formulé d'extension géographique hors de cette zone, c'est vrai que c'est pas l'esprit en fait que l'on attend d'un projet d'expatriation. On attend un projet qui va au-delà d'un poste unique. Donc effectivement, élargissez vos vœux soit sur des postes publiés, au moins sur des postes sur des zones géographiques. Vous avez la possibilité d'étendre à des zones géographiques. Là, on a la question sur les refus de détachement. Effectivement, on a parfois des refus de détachement. Nous, on est en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, mais on ne peut pas imposer un détachement au ministère de l'Éducation nationale. Le détachement est une décision qui relève du ministère de l'Éducation nationale et nous n'avons pas la possibilité de forcer en fait un département ou le ministère à accorder un détachement. On essaie, on donne nos arguments, mais on ne peut pas obliger le ministère à accorder un détachement. C'est pour ça que ce que l'on a souligné tout à l'heure, le recrutement n'est validé qu'après que l'on ait vraiment obtenu cet arrêté de détachement et l'agrément du poste diplomatique. Avant ces deux accords, le recrutement est toujours en suspens. Bon, je pense avoir fait le tour qu'on a indiqué tout à l'heure. Si vous avez.
Moi, c'est ce que je disais pour l'envoi, ouais. Pour l'envoi du dossier au DAZN. Ça vous appartient, hein, vous l'envoyez comme vous voulez, format papier, format dématérialisé. L'important pour nous au bureau du recrutement, c'est que vous le fassiez le plus rapidement possible de façon à ce que nous puissions recevoir le plus rapidement possible son avis, en fait, avec sa signature. Donc, comme vous voulez. Vous voyez, en fait, moi, je ne sais pas si le DAZN veut recevoir directement sur sa boîte mail. C'est à vous de voir. Tout dépend des DAZN, je pense.
Ouais, ça dépend des organisations locales. Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas via l'adresse mail qui est indiquée sur le site de l'AEFE à nous contacter. Pour que vous puissiez finaliser votre candidature.
Vous pouvez aussi m'appeler, je réponds le plus possible par téléphone.
Très bien.
Je pense qu'on a fait le tour.
Ouais. Merci à tous et puis bonne continuation.
Au revoir. Il vous reste 8 jours. Au revoir.